journal Jacques Molima.
Marche mercredi des femmes contre le protocole de Maputo à travers plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Les manifestantes disent non à la ratification de ce protocole par l'Assemblée nationale. Réaction dans ce journal du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. À Moba, la vie avait repris son cours normal hier mercredi dans l'après-midi après les manifestations de la population contre le retour des réfugiés supposés Banyamulenge. Le HCR lance un appel au calme à la population. Les accords entre l'Angola et la République démocratique du Congo conclus en début de semaine concernent également les hydrocarbures. Selon ce document, le Congo augmentera sa production annuelle du pétrole. Des précisions dans cette édition avec Lambert Mende, ministre congolais des hydrocarbures. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Des milliers de femmes étaient dans les rues de différentes villes de la RDC mardi et mercredi dernier. Que ce soit à Bukavu, à Kananga, Lodja, Gemena, Kolwezi, Lubumbashi ou à Kisangani, les manifestantes n'avaient qu'une seule revendication. Pas question que le Parlement congolais ratifie le protocole de Maputo. Ce protocole, je vous le signale, autorise l'avortement sous contrôle médical pour des grossesses issues des viols, des violences sexuelles ou d'inceste. Organisé sous l'égide de la Commission Justice et Paix de l'Église catholique, ces marches ont rassemblé indistinctement les femmes de toutes les confessions religieuses et ont coïncidé avec la journée du 1er août consacrée en RDC aux parents. Illustration de cette journée, direction Kisangani, où la marche pacifique a drainé un grand monde grâce à la mobilisation personnelle du vicaire général de l'archidiocèse de cette ville, Godelive Omondo.
À Kisangani, cette marche est partie de la poste pour aboutir au bureau de l'Assemblée provinciale où un mémo a été remis au président de cet organe délibérant. Ce mémo s'inscrit en faux contre la ratification du protocole de Maputo que les femmes qualifient de la mort puisque selon elles, cette disposition risque de déstructurer en profondeur le base de la société congolaise comme l'explique la sœur Perpétue Tolima, vice-présidente de la commission diocésaine Justice et Paix.
Il faut que les autorités prennent des mesures pour punir ceux qui violent au lieu d'autoriser l'avortement en cas de violence sexuelle. Qu'on arrête avec les problèmes de violence sexuelle et les cas d'inceste. Que ces parents-là soient punis au lieu d'autoriser l'avortement. Donc l'inceste va continuer.
Tout en recevant ces mémos, le président de l'Assemblée provinciale a affirmé son ralliement à leur position. Léon Dion Bassango a promis de les transmettre à qui des droits.
À ce que je sache, l'avortement est interdit par la loi chez nous. Nous avons vraiment à protéger la vie humaine. Nous allons faire en sorte que nous puissions contacter l'Assemblée nationale, la présidence de la République, pour que nous puissions plaider contre l'avortement.
Notons que cette marche a eu lieu simultanément à Kisangani, Buta, Bondo, Dungu, ainsi qu'à Lokutu sans aucun incident. Par contre, à Iziro, cette manifestation a été interdite par les autorités locales. Le commissaire des districts adjoint affirme avoir respecté les instructions de l'autorité provinciale interdisant ce genre de manifestations. Kisangani, Godelive Omondo, Radio Okapi.
Une marche qui n'a pas laissé indifférentes les autorités de l'Assemblée nationale. Je suis sensible à la protestation des femmes et solidaire avec elle, a déclaré le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Pour Christophe Lutundula, il faut éviter que le protocole cède le flanc à l'avortement illégal et non thérapeutique, d'autant plus que l'avortement est une infraction dans la loi congolaise. Christophe Lutundula, premier vice-président de l'Assemblée nationale, joint par Jacques Matande.
Je suis sensible à la protestation des femmes et solidaire avec elles. Je considère que dans notre société, l'avortement est antivaleur, sauf en cas d'avortement thérapeutique. Il faut éviter toute démarche ou tout instrument juridique qui tend à légaliser de tels avortements. Des avortements qui ne répondent pas à un critère médical. Il faut aussi se soucier de la compréhension que les femmes auront de ce type de protocole. Il ne faut pas que même par incompréhension ou par ignorance, l'on puisse penser que désormais on peut avorter sur le motif qu'on a été violenté sexuellement. Et pour le magistrat, il sera toujours difficile de faire la part des choses entre un avortement qui découle de violences sexuelles et d'un avortement qui est une infraction à la loi pénale.
1er août, journée nationale des parents et dédiée aux morts en République démocratique du Congo, c'était hier mercredi. En marge de cette journée, plus d'une dizaine de manifestants et les membres du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle, sont descendus mercredi au cimetière de Kintsuka, ici à Kinshasa, pour honorer la mémoire de leurs disparus. Force est de constater que ce cimetière est déjà loti. Ainsi donc, le RECIC interpelle le gouverneur de la ville de Kinshasa pour que cesse le lotissement des cimetières où des gens creusent des puits d'addiction d'eau au mépris des morts. Ils ont, à cette occasion, remis un mémo au gouverneur de la ville de Kinshasa. Écoutons Jean-Michel Mvondo de l'ONG RECIC, joint au téléphone par Mimi Ngumba Mulongo.
La plupart des membres de la population qui sont venus voir les tombes de leurs chers pour sacrer, ils trouvent déjà des maisons superposées. La population qui vit ici n'a pas accès à l'eau, mais ils creusent des puits dans les cimetières pour consommer de l'eau. En creusant, il y a des crânes de débris des hommes que ces gens-là mettent à côté. Donc pour eux, ça leur dit absolument rien. L'essentiel, c'est d'avoir un peu de l'eau. Et les enfants de moins de 5 ans qui consomment ces eaux-là, vous pouvez imaginer cette situation qui met en danger la santé de la population. Nous a interpellés, nous, en tant que sensibilisateurs de la population, pour que nous puissions attirer l'attention de l'autorité pour prendre des mesures y afférentes. C'est pourquoi nous disons que cette situation ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas sacrifier toute une population comme ça. S'il y a des sites à démolir, on doit aussi, l'autorité doit mettre cela parmi les priorités des sites à démolir.
Le professeur Samba Kapoutou n'est plus. Samba Kapoutou est décédé hier mercredi matin, 1er août, en Afrique du Sud. Originaire de la province du Katanga, Samba Kapoutou a été élu député national dans le district de Tanganyika. Plusieurs fois ministre et gouverneur, il fut considéré comme l'éminence grise dans le milieu présidentiel. Portrait de Samba Kapoutou Guillaume avec Mimi Ngumba Mulongo.
Né en avril 1946 à Moba au Katanga, Samba Kapoutou était un acteur politique de premier plan. Il a joué un rôle important dans la conclusion de l'acte d'engagement pour la conclusion dans la paix du processus électoral en RDC lors du deuxième tour de la présidentielle entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Samba Kapoutou avait été l'un des principaux négociateurs du gouvernement Kabila pendant les négociations du dialogue intercongolais de Sun City et des Pretoria en 2002. En décembre 2003, il est nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Plusieurs fois ministre et vice-gouverneur et gouverneur de province, Guillaume Samba avait été sous le régime Mobutu, coordinateur à l'Institut Makanda Kabobi, l'école de formation des cadres du MPR. Détenteur d'un doctorat en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles, Samba Kapoutou était professeur dans plusieurs universités de la RDC. Il était aussi un grand footballeur qui a participé à la Coupe du Zaïre en 1970.
Signalons enfin que feu professeur Samba Kapoutou venait d'être reconduit à son poste de conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité samedi 28 juillet dernier. Et puis en plus bref, 8 morts, 8 blessés graves, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu mardi dernier à 18h sur la nationale numéro 1 dans le tronçon entre Kinshasa et Kikwit. Un véhicule appartenant aux établissements Roméo est complètement endommagé. La police de la circulation routière dénonce, elle, le mauvais comportement des certains chauffeurs sur cet axe. Au Nord Katanga, le calme était revenu dans l'après-midi à Moba hier mercredi après les manifestations violentes de la population contre le retour des réfugiés supposés Banyamulenge. La population et les motos avaient recommencé à circuler normalement en milieu de l'après-midi. Sachez que c'était vers 5h mercredi matin que ces manifestations violentes avaient commencé suite à un tract. Le personnel du Haut Commissariat aux réfugiés a été menacé alors qu'il s'apprêtait à recevoir les convois des retournés volontaires congolais qui avaient fui la guerre à destination de la Zambie et de la Tanzanie. Sur les hauteurs de Moba à Kirungu, les observateurs militaires de la MONUC ainsi que leurs installations ont été visés par des jets de pierre avant d'être pillés. Un pont aérien mis en place par la MONUC a permis d'évacuer le personnel du HCR, les employés de certaines ONG ainsi que les observateurs militaires de la MONUC. Deux d'entre eux ont été admis à l'hôpital de la MONUC de Kalemie pour des soins. Pour couper court alors à la rumeur sur le mouvement des réfugiés supposés Banyamulenge dans les territoires de Moba, M. Haitham El Jazli, officier chargé de protection au HCR sous bureau de Moba, donne des précisions. Il est au micro de Expedi Mwamba Mubi.
En fait, il y avait un accord tripartite signé entre le gouvernement du Congo et le gouvernement zambien concernant le retour des Congolais qui sont réfugiés en Zambie. Bien sûr, avec nos partenaires, nous facilitons l'intégration de ces retournés. Il y avait un survey d'intention qui était fait en Zambie pour tous les réfugiés qui sont là-bas, et ces réfugiés ont exprimé leur désir de rentrer dans leur village de retour à Moba et à Kalemi et à Poitou. Ces gens-là, dès qu'ils rentrent, la HCR va faciliter leur intégration en collaboration avec les autorités locales, avec les ONG, avec les agences des Nations Unies intervenant à Moba et à Kalemi et à Poitou. Seulement, j'appelle à la population de Moba de garder le sang-froid et accueillir leurs compatriotes.
Au Nord Kivu, les déplacés des Shoa et ses environs en groupement Banyungu, secteur Osso, sont appelés à regagner leur village. Ils sont 1500 ménages qui ont déserté cette partie nord-est du chef-lieu du territoire de Massissi. C'était à la suite d'un bouclage des FARDC venus désarmer les civils la semaine dernière. Pendant que cette sensibilisation est en cours, une partie des déplacés se dit favorable. D'autres s'y opposent et conditionnent leur retour au démantèlement des FARDC qu'ils accusent de les harasser. Les FARDC rassurent cependant, les hésitants, mais la confiance est loin de se rétablir. Sylvestre Kilolo.
Ces populations ont déserté les villages de Ruhondo, Kamango, Kalembera, Shoa, Busoro, Engesho la semaine dernière. C'était à la suite d'un bouclage organisé par les éléments FARDC de la brigade mixte Charlie en vue de retrouver les armes illégalement détenues par des civils. Selon les commandants de cette brigade, des civils armés venaient de tuer deux de ces éléments sur qui ils ont tiré des balles alors qu'ils gardaient un véhicule tombé en panne lors d'une patrouille, ce qui a poussé ces hommes à procéder au bouclage qui, selon lui toujours, a permis de saisir une vingtaine d'armes auprès de la population. Cependant, autour de ces mêmes bouclages, les FARDC auraient perpétré des exactions contre les civils, ce qui a poussé ces derniers à abandonner les villages. Une semaine après, les autorités locales s'activent à encourager les déplacés à regagner les villages. Des réunions de sécurité se suivent et des commissions ont été chargées d'enquêter et de sensibiliser les déplacés pour leur retour, mais certains déplacés craignent toujours. Aussi longtemps que les militaires seront là, il y aura des échanges de tirs, que ce soit la police qui vienne nous sécuriser et non les militaires. Les autorités militaires de leur côté rassurent et demandent que les civils cessent de détenir les armes illégalement en vue d'éviter des clashs entre communautés.
Nous sommes en train de voir quels sont les mécanismes ou les stratégies que nous pourrons utiliser pour amener à ce que la population puisse enlever ça dans la tête, que leur sécurité dépend des armes qu'ils détiennent.
Notons que plusieurs milices locales sont présentes autour des villages concernés, en plus des FDLR qui sont eux aussi basés dans les secteurs. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, les populations de Wikang et de ses environs, territoire de Luilou, sont l'objet de tracasseries de la part de la police et d'autres services de sécurité. Baudouin Katem Titambala, administrateur du territoire assistant de Luilou et chef de poste d'encadrement administratif de Wikang, est monté au créneau pour dénoncer ces abus. Il s'insurge contre les arrestations arbitraires ainsi que sur la durée prolongée des détentions des prévenus. On l'écoute au micro de Chris Mukand.
Il est vrai que l'État que nous sommes, notre objectif est de sécuriser la population et leurs biens. Mais il ressort que dans certains services, précisément la police nationale congolaise ici, il ignore son objectif de sécuriser cette population et leurs biens. Nous voyons par-ci, par-là, il y a beaucoup de lamentations de la pauvre population paysanne sur le point des arrestations arbitraires, des amendes exorbitantes, les détentions dans des cachots jusqu'au-delà même des heures prévues par la loi. Nous ne cessons jamais d'exhorter la police, tout comme d'autres services à sécuriser la population et leurs biens, malgré les recommandations, les exhortations à ces gens, mais ce qu'ils sont en train de faire en dehors de nous, c'est autre chose parce que tout le monde vise à l'argent. Or, c'est la population qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Les rapports même, nous les en avons toujours fait d'habitude, même à des instances hiérarchiques. Jusque-là, aucune résolution n'a jamais été trouvée.
Enfin, l'Angola et la République démocratique du Congo ont signé, vous le savez, en début de semaine, une série d'accords. Parmi ces accords, celui sur les hydrocarbures. Selon le ministre congolais des hydrocarbures, ce document permet au Congo d'augmenter sa production annuelle du pétrole. Ceci grâce à l'exploration et l'exploitation commune des gisements dans la zone frontalière commune. Le partage des dividendes étant de 50% pour chaque partie. Lambert Mende, au micro de Emmanuel Imbanda Lukenga Lochichimbi.
Les explorations, toutes les exploitations concernées par ces permis délivrés par notre voisin qui vient de signer avec nous font partie du panier de ce qui va être partagé 50% entre l'Angola et la République démocratique du Congo.
Quelles dispositions ont-elles été prises pour que les parties puissent respecter ce que les
organisations? Il y a la convention elle-même, il y a la signature de nos deux pays et il y a des dispositions qui prévoient toute une série d'actes à accomplir en cas de litige. Et je pense que la première garantie, c'est la bonne foi et la coopération qui ont toujours existé entre nos deux pays. C'est une convention de type commercial, donc nous devons plutôt nous préoccuper de ce que nous y mettrons, nous, comme moyen technologique, comme moyen financier pour valoriser ce bassin. La seule chose dont nous pouvons être certains maintenant, c'est que nous allons améliorer la production annuelle de pétrole pour notre pays.
Voilà, complètement terminé ce journal mis en onde par Jean-Noël Mukondo. Thérèse Kankou et Léonard Moulamba étaient à la réalisation.